partage sa déception. Les Américains attendaient beaucoup de ce débat. Ils voulaient en savoir un peu plus sur la position des deux candidats afin de pouvoir se décider. C'est l'objectif d'un débat. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas assisté à un débat présidentiel, on a assisté à un match de catch. Il était difficile à certains moments de comprendre ce que l'un et l'autre disaient parce qu'il y avait ces interruptions constantes de Trump. Débat de très bas niveau avec des insultes, des invectives. Que voulait faire Trump? Évidemment, de toute évidence, déstabiliser Biden par ses interruptions constantes. À cet égard, il a réussi. Mais ceci dit, de son côté, Biden a résisté à cette manœuvre d'intimidation. Et il a mieux réussi, à mon avis, que Trump à faire passer son message en s'adressant directement aux Américains et en leur disant ce qu'il ferait, alors que Trump n'a pas dit véritablement en quoi il allait changer sa politique au cours des 4 prochaines années.
Bon, on connaît le style de Donald Trump. Certains, quand même, estiment que Joe Biden n'aurait pas dû aller un peu dans ce même sens que lui. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a eu des moments où il a aussi utilisé des gros termes.
Oui, écoutez, quand un candidat appelle un président un clown, quand il lui dit grossièrement de la fermer, cela n'élève pas le niveau du débat. Mais on voyait bien que Biden était exaspéré par ces manœuvres de Trump. Et parfois, on voyait la colère véritablement sur son visage. Enfin, ceci dit, il s'est efforcé de ne pas répondre aux attaques de Trump. Il n'a pas accroché au hameçon, si je puis dire.
D'accord. Et vous, René, je vous pose la même question, mais quel est le moment que les gens vont retenir, selon vous?
Écoutez, j'ai presque envie de dire que le moment, c'est l'ensemble de 90 minutes de chaos. Et j'ai bien apprécié le mot embarras de Denis tout à l'heure. Je crois que c'est un peu le sentiment général. Que l'on soit pro-Trump, que l'on soit pro-Biden, que l'on soit qu'on soit indépendant. Je crois que les Américains, de manière générale, et au-delà de l'Amérique, dans le monde, d'après les informations que j'ai, 200 pays ont repris le débat. C'était pas une belle image pour l'Amérique. Il y a quelque chose même de triste, je dois avouer, à avoir un tel spectacle, parce que quelque part ça relevait plus du spectacle. Donc sur Trump lui-même, c'est vrai que on savait qu'il allait être très agressif, parce que quand même, bien que ce soit lui qui soit aujourd'hui, que ce soit Biden le challenger, de facto au fond, Trump étant assez malmené dans les sondages par Biden, il lui fallait un peu il lui fallait pas mal d'agressivité un peu pour essayer de rattraper son retard, mais peut-être que donc on s'y attendait, mais peut-être qu'il y en a eu un peu trop. Chris Christie, qui a participé à sa préparation, lui-même a dit qu'il était beaucoup trop chaud, alors que c'est lui-même qui l'a coaché pour la préparation de ce débat. Vous savez, dans ce genre de situation, quand vous êtes agressif, c'est pas mauvais en soi, mais il faut l'être, et à un moment il faut aussi savoir, après une agression, s'arrêter, laisser une respiration, laisser l'effet de l'agression impacter votre interlocuteur, mais n'a pas laissé ce temps-là. C'était une agression constante, donc du coup, ça a créé une situation de chaos plus qu'autre chose.
D'accord. Et Denis, pour vous, il y a quand même peut-être eu des bons moments pour les deux candidats. Si vous deviez choisir des bons moments pour Joe Biden et Donald Trump, quels seraient ces moments?
Biden, il a réussi à établir un lien avec moi, avec les gens qui ont regardé. Il était très efficace, chaleureux même. Il avait l'impression de souffrir, l'anxiété pour le pays, pour l'avenir du pays. Aussi une haine, une vraie haine pour Trump. Donc, sur le plan affectif, à mon avis, Biden a réussi.
Et Donald Trump, si tu devais lui donner un bon point, qu'est-ce qu'il a fait de bien dans ce débat, selon vous?
Trump, c'est quelqu'un qui, si tu veux, un président qui peut lutter pour vous, qui ne va pas accepter du BS, comme on dit en anglais, c'est bien lui.
Est-ce qu'il a bien réussi à, il a réussi à faire passer ce message hier, mardi?
Je pense, oui.
Des moments difficiles, oui.
En temps réel, qui n'est pas tout à fait scientifique, mais uniquement pour leurs téléspectateurs, là où Biden battait de 2 à 1 dans toutes les catégories Trump, sur la question du leadership, ils étaient presque à égalité. Pour dire que donc cette idée que Trump a un peu une stature de leader, c'était beaucoup plus équilibré. Donc de ce point de vue-là, il s'en est peut-être sorti pas trop mal.
Et sur la question, sur les moments difficiles, Joe Biden, peut-être certains estiment qu'au début c'était un peu difficile, mais au fur du débat, alors qu'on pensait qu'il allait être fatigué, a peut-être un peu repris du poil de la bête. C'est votre impression aussi, René?
Certainement, bien que bon, je ne vous cache pas que bon, la préoccupation principale hein, de beaucoup de démocrates, d'analystes, c'est vraiment la question de l'énergie, c'est chez Biden. Trump a énormément de publicité, de spots publicitaires sur cette question-là, disant que Biden manque d'énergie, qu'il a un côté soporifique par rapport à son audience,
son âge.
Par rapport à son âge également. Donc c'est vrai que c'était une question que l'on se posait. Et, bon, il n'a pas été, trop lent, trop dans l'attentisme. Mais de manière générale, j'avoue que je ne l'ai pas trouvé particulièrement énergétique non plus, hein, parce qu'il se laissait distraire par les interruptions de Donald Trump. Je pensais qu'il pouvait, de manière plus affirmée, parler directement à la caméra, comme disait Denis tout à l'heure, c'était très efficace, le faire plus souvent et de manière plus assumée. Il s'est trop souvent laissé emporter ou distrait par les interventions, les interruptions de Trump.
Claude, très peu d'électeurs sont encore indécis. Hein. On parle de 10%, environ 10%. Pensez-vous que le débat d'hier va faire bouger les lignes dans un sens ou dans un autre?
Très franchement, non, je ne pense pas. Je pense que c'est un débat qui ne restera pas dans l'histoire. Et les gens qui sont pour Trump... Je prends le cas de Dennis, qui est plutôt favorable à Trump. Il a été déçu, n'est-ce pas? Donc, mais il y a la base qui restera fidèle à Trump, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Les autres, dans ce débat, Biden, ne l'oublions pas, reste tout de même le favori avec 7 points, 8 points d'avance. Donc, pour lui, l'enjeu était de ne pas commettre de gaffe et comme il en a l'habitude malheureusement, il n'en a pas commis vraiment. Comme je disais, René, il n'a pas
à perdre, c'est ça. C'est lui qui avait le plus à perdre dans ce débat, Biden.
Oui. C'est difficile à dire. Oui, probablement, c'était lui qui avait le plus à perdre en ce sens que c'est lui qui est le plus en avance, n'est-ce pas? Mais à cet égard, je pense qu'il a réussi. L'un des moments que j'ai trouvé les meilleurs, c'est quand Trump a essayé de l'attaquer sur sur les activités de son fils en Ukraine et de l'argent qu'il avait reçu de la Chine, de la femme du maire de Moscou. Et là, on a vu le père et on a vu le côté humain de Biden. Et là, il a été très fort et il a dit mon fils a été en Irak, il a été décoré, c'est un patriote.
Et quand il a été un peu personnel quand il a parlé des problèmes de drogue de son fils Hunter, n'est-ce pas? Certains ont estimé que c'était un bon point pour lui. Alors, René, je vous pose en fait la même question. Il y a des indécis, certes, la cible de ces messages d'hier ou de mardi, disons, c'était aussi de faire changer d'avis de certains électeurs.
Oui, on parle qu'il y aurait à peu près 10%, on dit que 90% des Américains ont déjà, certains sondages disent qu'ils ont déjà pris leur décision. Sur ces 10%, je ne sais pas trop, parce que d'un côté, on peut dire que Trump s'est tiré une balle dans le pied et que donc de ce point de vue-là, il ne va pas beaucoup, il ne va pas particulièrement gagner des voix des indécis. Mais d'un autre côté également, on peut dire que le Biden plein d'énergie que certains annonçaient et qui également n'a pas eu beaucoup d'espace, beaucoup de temps et de possibilités de clairement présenter différents aspects de son programme, n'a pas non plus émerveillé un indécis qui se disait est-ce que je vais même aller voter ou pas. Donc c'est plutôt cette peur-là que je crois du côté du camp des démocrates que l'on peut avoir. Mais globalement, je crois que ce débat, globalement, bien entendu, politiquement, a été plutôt bénéfique pour Biden.
D'accord. Donc, Dennis Beaver, vous pensez que les lignes ne vont pas bouger, que les gens ont déjà décidé globalement?
Aucun effet, à mon avis. Ceux qui aiment Trump, ils vont aimer Trump, ceux qui aiment Biden. Non, à mon avis, ça va rien changer. Pas du tout, non.
D'accord. Alors, je lis juste deux commentaires de téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Junior Bonpongo à Kinshasa écrit « Le coronavirus va impacter négativement sur la réélection de Donald Trump. Toutefois, il faut être prudent sur les pronostics car le combat ne fait que commencer. » Et puis lui, Mutanga, toujours en RDC, mais il n'a pas précisé la ville, il dit « Malgré le débat Biden-Trump, la politique extérieure américaine et les lois internes ne changeront pas. L'Afrique, malheureusement, restera abandonnée pour longtemps, faisant allusion au fait que l'Afrique n'a pas été abordée dans ce débat. Bon, ce n'est pas, de toute façon, l'objectif. La politique extérieure n'était pas un des sujets. Alors, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum. Éviter les gaffes et les moments embarrassants qui tourneraient en boucle à la télévision, ce sont là quelques-uns des objectifs des candidats lors des débats télévisés. Steve Reddish revient sur des moments historiques dans les débats ayant façonné la politique américaine. Et c'est un récit de Lionel Gaïma.
The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
De Kennedy contre Nixon à Clinton contre Trump, les débats présidentiels ont été ponctués de moments spéciaux qui ont, dans certains cas, défini des carrières et laissé une marque indélébile sur la politique américaine.
Presque toujours, de chaque débat qui me revient à l'esprit, je peux me rappeler quelque chose ayant eu lieu en dépit des candidats et qui a montré au peuple américain quelque chose qu'il avait besoin de savoir concernant le candidat.
Pour Walter Mondale, cela est arrivé à deux reprises, lorsqu'il a défié le président Ronald Reagan, qui briguait alors son second mandat.
Reagan ne suivait pas vraiment son script et il se lançait dans ses discours dans lesquels il finissait par s'égarer, oubliant où il voulait en venir.
Et deux tiers du budget de la défense vont à la solde et au salaire, ou à la solde et à la pension. Et puis vous y ajoutez la nourriture et les vêtements et toutes les autres choses, et vous n'avez qu'une petite portion allouée aux armes.
Alan Schroeder, professeur de journalisme à l'université Northeastern, a écrit un livre sur le rôle de la télévision dans les débats présidentiels, à commencer par le tout premier de l'histoire moderne de ce pays en 1960 entre John Kennedy et Richard Nixon.
Nixon étant sorti quelques semaines plus tôt de l'hôpital, avait perdu du poids et était très pâle. Il n'avait pas vraiment utilisé du maquillage comme il l'aurait dû. Il transpirait et il apparaissait amaigri, alors il ne passait pas bien à la télé.
Francis Snow, directeur des initiatives stratégiques à l'université George Washington, Snow est un ancien correspondant de CNN à la Maison-Blanche.
Vous savez, il y a eu ce moment mémorable lorsque Gerhard Ford était candidat et qu'il avait tenté de suggérer que la Pologne ne faisait pas partie de l'Empire soviétique.
Mary Kate enseigne les sciences politiques et est chercheuse principale au Centre Miller de l'Université de Virginie à Charlottesville. Elle est rédactrice des discours de l'ancien président George Bush père lorsque ce dernier a pris part au débat de 1992 contre Bill Clinton et Ross Perot.
L'un des deux avait violé les règles du débat et excédé son temps de parole. Et la journaliste Carol Simpson n'appliquait pas les règles. Bush désigne sa montre pour lui signaler d'intervenir. Ne sachant pas les règles, le public a pensé que le président songeait à autre chose, qu'il voulait aller manger un hamburger. Cela s'est sérieusement retourné contre lui.
Dans son débat contre Walter Mondale en 1984, Ronald Reagan a eu le dernier mot lorsqu'il lui a demandé s'il n'était pas trop âgé pour la présidence.
Je veux que vous sachiez également que je ne ferai pas de l'âge au sujet de cette campagne. Je ne vais pas exploiter à des fins politiques la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire.
Reagan a défait Mondale par un rat de marée.
Voilà, merci beaucoup Lionel pour ce retour un peu sur l'histoire des débats présidentiels. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Ici à Washington, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, toujours dans la capitale américaine, René Lecq, analyste politique, et Denis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie. Alors Claude, les débats présidentiels sont une tradition important dans la politique américaine, n'est-ce pas? Vous avez suivi la scène politique américaine depuis des décennies. Parlez-nous de quelques moments mémorables qui vous ont marqué.
Bien, comme vous l'avez montré dans la séquence précédente, il y en a plusieurs qui sont restées fameuses. Et, bien sûr, tout le monde, personnellement, je me souviens du fameux débat Mondale-Reagan. C'était en 1984, et Reagan se trouvait dans une position difficile, son premier débat n'avait pas été très bon, donc c'était pour lui la chance de se rattraper, de remonter en selle, et il a eu quelques belles formules, par exemple, est-ce que vous trouvez mieux maintenant qu'il y a 4 ans, que votre situation est meilleure qu'il y a 4 ans? Ça, c'était dans le débat de 1980 avec Carter. Et puis en 84, il y a eu cette fameuse, il n'allait pas utiliser l'âge de son rival qui avait à peu près 50 ans à l'époque. Et lui, il en avait 70 à des fins politiques. Il y a eu d'autres moments lors du débat, par exemple Bush, Perot, Clinton. Quand Bush a regardé sa montre, ça n'a pas fait une très bonne impression. Il l'a payé assez cher. Il a été l'un des
parce qu'il souffrait un peu, c'est ça. D'accord. Je pose peut-être la dernière question à tout le monde. On va faire un tour de table. René, au vu de tout cela, quelles leçons doivent tirer Trump et Biden pour les prochains débats? Et puis, en se basant un peu sur leur performance de mardi et sur l'histoire.
Oui, vous savez, Abdourahmane, le jeu du débat politique à la télévision, à la radio, c'est en fait un jeu d'identification. Hein, c'est ce qu'on dit tous là depuis tout à l'heure. Et rapidement, je vous rappelle en 2000, Bush, Al Gore, l'identification des Américains par rapport à la simplicité de Bush lui a été très favorable, alors que Al Gore, qui était beaucoup plus structuré, apparaissait plus comme un intellectuel, une sorte d'intellectuel froid. Et ça, bon, la plupart des Américains ne sont pas arrivés à s'identifier à lui de ce point de vue-là. Bon, on est dans la même situation ici. Est-ce que les Américains qui apprécient la décence, la courtoisie dans les relations, dans l'échange, est-ce qu'ils vont pouvoir s'identifier à ce côté un peu bulldog de Donald Trump dans ce débat-là d'hier et dans les prochains débats? De toute évidence, il me semble que ça ne va pas lui être favorable. Par contre, Biden, avec un côté plus humain, pratiquement est apparu même comme une sorte de victime. Et donc, bon, l'identification se fait plus facilement par rapport à des victimes qu'à des agresseurs qui viennent avec leurs gros sabots. Donc, je crois que cette question-là du jeu d'identification et de la position que l'on veut avoir dans la perception que le public a de chacun des intervenants, je crois que ça va être déterminant pour les deux prochains débats.
D'accord. Et vous, Dennis Beaver, quelles leçons retenir pour les deux candidats pour faire mieux la prochaine fois?
Comme René vient de le dire, victime. Biden jouait le rôle victime parfaitement. Et c'est ça qui... ça me fait peur. Il est président, dans un monde de chaos, chaotique. Et tout d'un coup, moi je veux quelqu'un fort. Je veux quelqu'un un peu comme Ford, au lieu d'un mec qui se sent victime. Et donc, il faut que Biden, il faut qu'il devienne beaucoup plus fort qu'hier soir.
Et vous, Claude?
Il y en a beaucoup qui se demandent s'il faut vraiment continuer après le désolant spectacle de mardi soir. Est-il nécessaire d'avoir deux autres débats? Si on doit avoir deux autres débats de la même mauvaise qualité, dirais-je, les gens vont tourner le bouton, il n'y aura plus personne pour regarder. Ceci dit, qui a gagné véritablement ce débat? Bon, il y a une majorité qui disent que c'est Biden parce qu'il n'a pas commis de gaffe, qu'il s'en est tiré honorablement, mais à mon humble avis, il y a plus de perdants que de gagnants dans cette affaire. Et le plus grand perdant, c'est l'électeur américain qui n'a pas appris grand-chose et qui a assisté à un spectacle vraiment navrant. Et comme le disait René Lake, quelle impression cela fait à nos amis de nos alliés et avec quelle délice les adversaires des États-Unis ont-ils dû regarder ce débat.
D'accord. En tout cas, merci à mes trois invités. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique. Je n'oublie pas nos télépartenaires et l'équipe technique de Washington Forum. À très bientôt. Au revoir.